Alors nous étudions le livre des Actes. Je vous invite à chercher le chapitre 22 que nous allons étudier ensemble ce matin. Actes chapitre 22. Et nous commencerons notre lecture, même dans les versets qui précèdent, versets 39 et 40 du chapitre 21. Acte 21, verset 39. Je suis juif, reprit Paul de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, dit « Homme, frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'étais élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là, et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout d'un coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendais une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi, et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrai la vue, et je le regardai. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Alors il me dit « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Ils écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix, disant « Hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre !» Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Et rapidement, verset 10, chapitre 23. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Amen. Alors, on dit souvent que le mot-clé du livre des Actes, c'est le mot « témoin ». C'est comme ça que Jésus lui-même avait introduit un peu ce livre. « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins ». Et cette idée de témoin est vraiment mise en avant ici. Verset 15, c'est ce que Paul avait déjà reçu depuis le début. « Tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Et puis verset 18. Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et puis on parle d'Étienne en verset 20. Étienne, ton témoin. Et puis enfin cet encouragement à la fin. Prends courage Paul parce que de même que tu as rendu témoignage de moi en Jérusalem, comme nous venons de lire, eh bien il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Voilà, témoin, témoignage. C'est vrai qu'entre chrétiens, quand on veut parler de l'évangélisation, de partager notre foi, qu'est-ce qu'on dit ? On témoigne, on parle de témoigner. Et quand on y pense, c'est très fort. Parce que vous savez, il y a une grande différence entre un témoin et un commercial. Un commercial, il veut vendre quelque chose, donc on apprend à être un peu méfiant de son discours. Mais un témoin, tout ce qu'il fait, il constate quelque chose. Et en général, sauf s'il y a un précédent de malhonnêteté, on accorde une grande confiance. Un témoin, il ne fait que constater quelque chose. La seule qualification d'un témoin, c'est qu'il a vu, il a entendu quelque chose pour en attester. Et la Bible nous voit comme des témoins. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre société est très méfiante, très sensible à l'idée d'imposer ses croyances aux autres. Pour notre société, c'est une faute grave de vouloir faire du prosélytisme et d'essayer de convertir les gens. Mais vous voyez ici, depuis le début, c'était la force de la foi chrétienne, depuis le début, les chrétiens se sont présentés comme des témoins. Et tout d'abord, les apôtres, bien sûr, les apôtres témoins par excellence, parce qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité, et tout au long du livre des Actes, c'est tout ce qu'ils ont essayé de dire, c'est voilà, nous avons vu le Seigneur ressuscité, acceptez-le, il est un plein sauveur, un sauveur parfait, nous pouvons en témoigner de sa résurrection. Mais il n'y a pas que des apôtres qui sont appelés à être témoins, parce que déjà ici, on voit que Étienne, qui n'était pas apôtre, il était plus tard, il était choisi pour servir aux tables, mais lui, on parle de lui comme témoin. Verset 20, Étienne, ton témoin. Donc, dans un sens plus large, tous les chrétiens, on le sait, sont des témoins. Et ce que j'aimerais voir ce matin, une des meilleures preuves de la réalité de la foi chrétienne, c'est le témoignage d'une vie transformée. Ce témoignage que nous sommes appelés à communiquer, à transmettre. Et c'est ce que nous avons ici. Paul donne son témoignage. Il est témoin et nous appelle à l'être aussi. Alors nous allons voir ce matin un témoignage parlant, ensuite un témoignage choquant, ensuite un témoignage retentissant et enfin un témoin fidèle. Un témoignage parlant, tout d'abord. C'est ça qui est beau dans un témoignage personnel. C'est toujours très, très parlant, un témoignage. Mais pour cela, il faut parler. Un témoignage parlant, il faut parler. Et c'est ce que Paul va faire ici. Il saute sur l'occasion. Il se trouve sur ses degrés. Il y a la foule tout autour. Et on est en train de lui conduire ailleurs. Mais il demande, en verset 33, « Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Et puis, il bascule en langue hébraïque. Et il va leur parler. Et il va dire quelque chose, c'est ce qu'il dit en verset 1. Écoutez ce que j'ai à dire maintenant pour ma défense. Alors on accuse Paul de tout ici, on n'est pas content avec lui, avec sa doctrine, avec ses enseignements et tout ça. Donc il va prendre sa défense et qu'est-ce qu'il va dire pour essayer de leur convaincre? Eh bien, au lieu de citer quantité de textes de l'Ancien Testament, chose qu'il aurait pu très bien faire. Au lieu de faire ça, eh bien, il raconte sa vie, il raconte son expérience personnelle. Et il prend la parole ici, et en 3 minutes, j'ai fait un test chez moi, en 3 minutes, il a su décrire tout son parcours spirituel. Et finalement, en pensant, je me suis dit, eh bien, ici, c'est la première fois dans la Bible où quelqu'un donne son témoignage de conversion. Hein, comme vous savez, nous avons l'habitude dans notre Église d'entendre des témoignages des baptisés ou bien des nouveaux membres. Eh bien, ils donnent un témoignage de leur conversion. Eh bien, l'idée vient d'ici. Aussi, justement, dans les cours découvertes, on invite les gens à relire ce chapitre, chapitre 22 du livre des Actes, où l'on trouve le témoignage de Paul, ou plutôt le témoignage de Christ dans la vie de Paul. Et Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, vous le voyez là, en chapitre 22, tout d'abord, il parle brièvement de son arrière-plan religieux, ça c'est les versets 3 à 5. Après, il parle surtout d'une rencontre personnelle décisive avec Jésus-Christ, ça c'est les versets 6 à 16. Et là, il apporte vraiment quelques détails, quelques souvenirs concrets. Il parle de, voilà, c'était à midi, ou bien il y avait cet homme Ananias qui est venu me voir, et il se souvient encore des phrases, des paroles que Jésus lui avait dit, qu'Ananias lui avait dit. Et donc, il rappelle tout ça, et puis, dans les versets suite, 17 à 21, il parle de la suite de l'œuvre de Christ dans sa vie. Et voilà le témoignage de Paul, qui va proposer à cette foule, au moins pour sa défense. Et c'est ça, un témoignage personnel, c'est quelque chose de toujours de très parlant. Et le Seigneur nous invite, nous, chaque chrétien, à savoir raconter un peu ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Comme nous étions petits, mes parents ont dû instaurer une règle, ils peuvent en témoigner, ils sont là ce matin. Et, ils ont instauré une règle, nous les enfants, on n'avait pas le droit de dire « je ne sais pas » à un adulte. Parce que nous, un peu par timidité ou autre, on avait l'habitude de répondre comme ça. Un adulte nous posait la question « t'es à quel âge ?» Ben, je ne sais pas. « Comment tu t'appelles ?» Je ne sais pas. Voilà, on regardait nos chaussures et on hissait les épaules. Mais ils nous apprenaient à... Non, on n'avait pas le droit de faire comme ça. Alors, quand on vous pose la question, mais comment vous êtes devenu chrétien? Un chrétien sait quelque part, il n'a pas le droit de dire, je ne sais pas. Déjà dans l'Ancien Testament, dans les psaumes par exemple, on veut raconter ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Psaume 66, verset 16, c'était le verset affiché sur l'écran tout à l'heure. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Donc, de tout temps, il y a ce désir de raconter ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Mais surtout, le chrétien, quand il comprend son salut en Jésus-Christ, quand il comprend la nature de la conversion, oui, et il a un témoignage qui peut transmettre. Et c'est fort, c'est un témoignage parlant que le Seigneur nous invite tous à avoir. J'essaie d'expliquer ça. Si vous demandez à un chien, on va supposer que ce chien il sait parler, si vous demandez à un chien comment tu es devenu un chien, il va dire, je ne sais pas, j'étais toujours un chien. Mais si vous demandez à un papillon comment tu es devenu un papillon, ce papillon il devrait dire, en fait j'étais une chenille, après chrysalide et puis papillon. Et la Bible nous invite à voir le chrétien plus comme ce papillon-là que le chien, qui a toujours été un chien. Mais devenir chrétien, être chrétien, c'est vivre ce que le papillon vit. J'étais un chenille, chrysalide, il y a une transformation, et je suis sorti papillon. Et c'est ce que l'on trouve ici, dans le témoignage de Paul. Et c'était pas chenille, chrysalide, papillon, mais c'était j'étais pharisien zélé. Après, sur le chemin de Damas, quelque chose de bouleversant, de basculant est arrivé dans ma vie. Et maintenant, je suis chrétien, je suis mon Seigneur, mon Sauveur Jésus-Christ. Et il m'appelle à voler au loin, porter son témoignage. Et voilà, si on vous demande, vous n'avez pas le droit de dire « je ne sais pas ». Parce que, à force de grandir dans la foi, à force de lire votre Bible, vous pouvez savoir ce qui est arrivé dans votre vie, comme Paul l'a su. Cela ne veut pas dire qu'on arrive à tout expliquer. Il y a ce cantique qu'on aime chanter, « Je ne sais pas pourquoi Dieu, dans sa grâce, m'a tant aimé. » Mais le refrain dit « Mais je sais qu'il m'a aimé, je sais que je suis sauvé, je sais qu'en lui j'ai la vie. » C'est vrai, nous avons déjà étudié ce chapitre, la conversion de Paul dans le chapitre 9. Luc aime beaucoup cette histoire parce qu'il le fait répéter trois fois en chapitre 9. l'événement. Et puis chapitre 22, Paul va donner son témoignage. Et puis encore chapitre 26, Paul aura encore une occasion de donner son témoignage. Donc nous avons le récit de sa conversion trois fois pour montrer à quel point c'est un témoignage parlant. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas vécu une chose aussi frappante que Paul sur le chemin de Damas. Et ce fait, comme quelqu'un comme moi, ce fait peut déranger en disant « je ne sais pas que raconter parce que je n'ai jamais eu un coup de lumière, j'ai jamais eu la voix du Seigneur qui m'a parlé. » Mais on a tous une histoire, on a tous un témoignage parlant par notre vie transformée et par ce que nous comprenons de l'Évangile. De la manière que Dieu nous sauve, on a tous un témoignage. C'est vrai, parfois on ne sait pas exactement la situation exacte, le moment clé, mais ça ne change rien aux réalités de la chose. Si je vous demandais combien d'entre nous savent exactement à la minute près quand le soleil s'est levé ce matin? À la minute près, quand est-ce que le soleil s'est levé ce matin? Sauf si, comme moi, vous avez regardé sur Internet, à 6h27 à Toulouse, le soleil s'est levé ce matin, vous savez. Mais combien d'entre nous savent que le soleil s'est levé ce matin? Comment savoir que le soleil s'est levé ce matin? Eh bien, c'est une évidence, vous voyez sa lumière. De la même manière, à la minute près, quand savoir que quelqu'un est devenu chrétien, peut-être on ne sait pas, mais... Est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un est devenu chrétien? Oui. Oui, par son témoignage, par sa vie transformée. Et je me suis posé la question, même pour l'apôtre Paul, peut-on savoir exactement à quel moment il est basculé dans la nouvelle vie? Quel moment sa nouvelle naissance? Si on cherche la minute près, même là on est embêté. Est-ce que c'était sur le chemin de Damas, à midi même, quand le soleil est arrivé? Ou est-ce que c'était plus tard, quand... il a recouvert la vue, les écailles sont tombées de ses yeux. Ou est-ce que c'est ce moment où Ananias lui a dit « Lève-toi, sois pardonné de tes péchés » en invoquant le nom du Seigneur. Il faut invoquer le nom du Seigneur. Donc, en tout cas, on sait que Paul a été converti, saisi par le Seigneur et transformé. Et ici, il peut en parler. Donc vouloir savoir le moment exact, c'est peut-être pas la bonne question, mais vouloir savoir raconter la réalité, ça c'est la chose importante, comme Paul a su faire ici. Donc, dans ces circonstances-là, la meilleure chose qu'il pouvait faire pour se défendre, c'était raconter son témoignage personnel. Et c'était un témoignage très parlant. Maintenant, nous allons voir, c'est aussi un témoignage choquant. Mais, parce qu'on voit les réactions en verset 22. Là, on voit cette hostilité extrême, haute de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Mais c'est quand même curieux, cette réaction si hostile, quand on y pense à la manière que Paul s'est pris pour raconter son témoignage. Parce qu'en général, l'avantage d'un témoignage, et c'est pour ça qu'on encourage les chrétiens à en témoigner, l'avantage d'un témoignage, c'est justement, c'est pas agressif, c'est pas imposant, c'est simplement raconter ce que j'ai vécu. Et en général, les gens sont prêts à entendre au moins votre histoire. Donc, un témoignage, c'est ça l'avantage, c'est pas imposant, c'est simplement raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Et dans ce témoignage, Paul... Il utilise beaucoup de sagesse, beaucoup de tact, il s'y prend bien. D'abord, il va parler en langue hébraïque pour avoir une écoute encore plus forte. Et on entend qu'il redouble de silence quand ils entendent Paul parler en langue hébraïque. Donc, c'est le rappel qu'il est quand même un de chez eux. Et c'est ça qu'il faut, un témoignage de quelqu'un qu'on connaît, de quelqu'un de notre propre milieu. C'est fort. Donc il va parler en langue hébraïque, il avait parlé au tribun, il avait parlé en grec, et il avait su capter l'attention du tribun en parlant en grec, et maintenant il sait capter l'attention de la foule en parlant en araméen notamment. Et puis il va aussi les aider un peu cette foule en disant « moi j'ai grandi dans cette ville-ci, j'étais élevé dans cette ville-ci, instruit au pays de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. » Il s'adresse à son entourage comme des pères, des frères. Donc tout ça, il est en train de s'associer à eux en quelque sorte. Et puis en verset 12, il parle d'Ananias. Et encore, il signale que cet Ananias n'était pas un fanatique. Il dit qu'Ananias était un homme pieux selon la loi de qui tous les juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Donc là encore, le témoignage qu'avait Ananias au milieu du peuple juif était très reconnu, honoré. Et c'est cet Ananias qui va aller vers Paul pour le conduire à Christ. Et puis, même, il apporte le détail que son appel missionnaire, il a reçu notamment lorsqu'il priait dans le temple. Donc ce temple qui était un lieu saint, c'était dans ce temple même que Jésus s'était manifesté à ce moment à Paul. Donc tout ça, c'est vraiment pour aider ces juifs, ces compatriotes à recevoir son témoignage. Et pourtant, ils sont choqués. La réaction de ces gens reste très très hostile. Hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre, il pousse des cris, jette leurs vêtements, lance de la poussière en l'air. Qu'est-ce qu'ils n'ont surtout pas aimé dans ce témoignage? Qu'est-ce qui est si dérangeant? Qu'est-ce qui est si choquant pour ces juifs? Eh bien, c'est cette dernière phrase qui semble être tellement fâcheuse pour eux. Alors il me dit, Jésus me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Ils écoutèrent jusqu'à cette parole notamment les nations. C'est la mention des nations qui est si choquant pour eux. Alors réfléchissons un instant, pourquoi une telle réaction dans le témoignage de Paul, ce témoignage qui reste quand même très dans un cadre très juif où il honore la tradition juive, mais il mentionne néanmoins son appel vers les nations, et c'est ça qui les fâche tellement. Pourquoi une telle réaction? Eh bien, je pense que, vous le voyez, son témoignage remet en cause toute leur conception de Dieu et du salut. Parce que pour eux, le salut venait d'une appartenance au judaïsme, et de cette conviction notamment que, sur le plan moral, les juifs, leur peuple, étaient meilleurs que les autres, meilleurs que les nations. Et qu'ils avaient un monopole, en quelque sorte, sur la bénédiction de Dieu, parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Mais Paul dit, par son appel missionnaire vers les nations, montre que Dieu ne fonctionne finalement pas comme ça, que Dieu ouvre son salut et sa bénédiction au monde entier. Et du coup, ils n'ont plus le monopole sur la bénédiction de Dieu, et c'est ça qu'ils ne supportent pas, parce que c'est là toute leur conception de Dieu et du salut, la manière que l'on gagne le paradis. Donc finalement, ce qui les choque le plus, c'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui finalement va vers, qui ne va pas chercher les meilleurs, ceux qui sont les meilleurs sur le plan moral ou autre, mais qui va chercher, qui s'ouvre à tout le monde, qui s'offre à tous. Et c'est surtout ça qu'ils ne supportaient pas, on le voit ici. Ils ne supportaient pas que Paul puisse aller vers les nations et leur offrir un salut si gratuit, si accessible pour eux. Dieu, c'est comme si Dieu se salit en allant vers ces gens-là, mais nous, il peut venir vers nous parce que nous, on est plutôt bien, mais aller vers là, ça, c'est pas bien. Et je crois que tout témoignage... Il y a un aspect choquant dans tout témoignage quand on mesure la grâce de Dieu dans une vie, dans notre vie, quand on sait exprimer cette grâce, oui, le monde autour de nous serait choqué. Nous voulons que nos vies témoignent surtout de cette grâce. Et quand on témoigne, on n'est pas en train de dire que oui, finalement, Dieu, il m'a béni parce que sur le plan moral, j'étais quand même meilleur que les autres. Non, un témoignage chrétien, c'est tout le contraire. C'est dire Dieu m'a gracié parce que j'étais pire que les autres. C'est ce que Paul pouvait dire. Je suis le pire des pécheurs. Ça, c'est choquant pour Paul, le pharisien, de dire je suis le pire des pécheurs. Vous l'avez un autre bribe de son témoignage en 1 Timothée, chapitre 1. Où il évoque notamment à quel point lui, il a compris la grâce et la miséricorde de Dieu pour ensuite l'offrir aux nations. Mais pour les Juifs, ça chamboulait toute leur conception de la vie. de Dieu, du ciel, du paradis. Paul, en 1 Timothée chapitre 1, verset 13, Paul dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » J'étais frappé en relisant ces versets dernièrement, en pensant à Paul, ce pharisien, qui est prêt à avouer, à admettre, à confesser, ici, dans ces versets, blasphème, ignorance et incrédulité. C'est trois choses qu'un pharisien n'aurait jamais avoué, n'aurait jamais pratiqué, n'aurait jamais imaginé être coupable de blasphème, ignorance et incrédulité. Un pharisien, jamais il blasphème. Justement, ils étaient prêts à lapider tout le monde, Jésus compris, pour blasphème. Ignorance, il ne faut pas parler aux pharisiens d'ignorance. Non, nous, on sait. Et puis, incrédulité, ça, pas ça non plus, parce que nous, on a les promesses de Dieu, on croit. Paul, il dit, voilà, je demande pardon, je confesse, blasphème, ignorance, incrédulité, et heureusement, j'ai obtenu miséricorde. Voyez, Paul a compris que son cœur était comme ça. Son cœur de pharisien, il pouvait très bien contenir blasphème, ignorance et incrédulité. Et donc, il savait qu'il devait, qu'il avait besoin de la miséricorde, de la grâce pour le changer. Et si on revient à son témoignage, en acte 22, même s'il parle de lui-même, il y a quand même quelque chose de choquant pour ceux qui l'écoutent. Parce qu'il est en train de dire finalement, j'ai dû me convertir de judaïsme vers Jésus-Christ. J'ai dû me convertir d'être un pharisien à être un chrétien. C'est-à-dire, j'étais pharisien, j'avais une connaissance exacte de la loi, j'étais zélé pour Dieu, et bien, mais j'étais pas en route pour le ciel. Et j'ai dû m'en repentir de tout ça et venir à Dieu autrement. Et on peut comprendre que ce discours a choqué le Sanhédrin parce que tous ces pharisiens, ces sadduciens qui pensaient que c'était comme ça qu'on allait vers Dieu. Et voici Paul, un des leurs, qui dit, ben, je me repens de tout ça, j'avoue que ça c'était une fausse route et maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris la grâce de Dieu. C'est choquant de parler comme ça. Et je pense dans un témoignage, c'est ça qui est tellement fort, qui est difficile pour les autres de comprendre, et même parfois pour nous les chrétiens, difficile à exprimer, mais à nous d'apprendre comment exprimer cette grâce de Dieu dans notre vie, parce que dans la tête de plusieurs gens, un témoignage de conversion, une conversion, c'est simplement changer de camp, changer d'église, changer de lieu. Mais pour le chrétien qui a vraiment vécu quelque chose, qui a découvert la grâce de Dieu, la nouvelle vie, c'est rien à voir. Si Paul avait dit, écoutez mes frères, avant j'étais sadducéen, maintenant je suis pharisien, eh ben, aucun problème, tout le monde. Ou si Paul disait, avant j'étais dans une synagogue, maintenant je fréquente une autre synagogue. Tout ça, ça pose aucun problème pour ce foule et ça pose aucun problème pour le diable. Mais c'est quand on dit, avant j'étais, maintenant je suis en Jésus-Christ, maintenant j'ai découvert sa grâce, c'est ça qui est fort, c'est ça qui est choquant pour beaucoup. C'est difficile pour beaucoup de saisir cette différence. Ils voient les églises, ils voient différents milieux chrétiens, le catholicisme, le protestantisme et beaucoup d'autres choses. Et puis, oui, on change d'un autre. Alors, mais le chrétien, c'est pas ça où il met l'accent de son témoignage. Il met l'accent sur j'ai dû me repentir de tout ça. J'ai dû me repentir de la manière que je concevais Dieu et son salut, la manière que je voulais accéder au ciel. Tout ça, j'ai laissé. J'ai compris que Dieu est venu vers moi. J'agissais par ignorance et par incrédulité. Et enfin, j'ai saisi la miséricorde et la grâce. C'est une histoire de grâce. Et cette grâce, voilà, ce serait toujours la chose la plus, je dis, la plus choquante, la plus forte, la plus surprenante dans un témoignage. Et on voit les réactions. Ils ne supportaient pas que cette grâce puisse aller aussi vers les nations. Mais Paul l'avait compris. puisqu'il avait compris cette grâce, finalement je suis sauvé de la même manière que les nations qui ne connaissent, qui n'ont aucune connaissance exacte de la loi de Dieu, qui ne sont pas zélés, eh bien c'est Christ qui s'est donné pour moi comme pour eux, donc moi je peux aller vers eux et leur annoncer cette grâce. Et c'est ça qui a choqué, mais c'est ça notre témoignage aussi. Et puis on peut voir aussi un témoignage retentissant. C'est ça qui est beau quand on témoigne, quand on rend témoignage de Jésus-Christ. Oui, c'est déjà très parlant de pouvoir raconter notre expérience, notre vécu. C'est fort et choquant quand on découvre vraiment à quel point on a été gracié. Et puis, quand on témoigne, on peut savoir qu'il y a un retentissement. C'est ce que je remarque dans ce chapitre. On dirait, de premier abord, on dirait qu'il n'a pas pu bien témoigner, Paul, il a été coupé. Son témoignage s'est arrêté verset 21, parce que après tout le monde, ils élèvent la voix, ils ne veulent plus rien entendre, hôte de la terre, un pareil homme. Donc on dirait que son témoignage a été coupé, qu'il a été rejeté. Et c'est vrai que parfois, quand on témoigne de notre foi, on a l'impression de ne pas pouvoir aller bien loin ou développer, on est rejeté. Mais pensez-y, quand on témoigne de notre foi, on ne sait pas toujours qui écoute, mais il peut y avoir un retentissement au-delà de ce qu'on imagine. Et je dis cela par rapport déjà au témoignage d'Étienne. Ici, c'est Paul lui-même, c'est ça que je trouve touchant. Il parle de lui, Paul, il dit en verset 20, « Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Paul, il parle d'Étienne comme témoin. Étienne, c'est vrai, il avait témoigné de sa foi. Il a été lapidé. Étienne est mort sans savoir si son témoignage allait porter le moindre fruit. Et on peut se demander, est-ce que son témoignage, est-ce que le témoignage d'Étienne a porté du fruit? Eh bien, on sait qu'il y avait un qui l'a entendu et qui en a été travaillé et qui s'en est souvenu. C'est l'apôtre Paul qui a été certainement touché par le témoignage d'Étienne puisqu'il en reparle ici et qu'il le cite dans sa prière à Jésus. Étienne, ton témoin. Donc Étienne, même si on pense qu'il a eu que son témoignage a été rejeté, finalement Étienne a eu un témoignage retentissant. Paul, est-ce que qui a entendu le témoignage de Paul, qui a été marqué par le témoignage de Paul? On dirait que la plupart l'ont rejeté, mais quand on regarde le livre des Actes et la suite, on n'a pas encore tout fini, mais la suite du livre des Actes sera la suite de ces événements-là. Et finalement, ça va conduire à des témoignages très forts. Déjà, le tribun, il va entendre le témoignage tout ça. L'ensemble du Sanhédrin va entendre le témoignage de Paul. Une bonne partie des habitants de Jérusalem vont entendre ce témoignage. Et puis, on a même, par exemple, le neveu de Paul. On va faire connaissance avec le neveu de Paul dans le chapitre suivant. Lui semble être touché par la vie, le témoignage de Paul. Plus tard, Paul aura l'occasion, à cause de son arrestation ici, Paul aura l'occasion de témoigner à des gens même plus importants, notamment Félix, et puis Festus, et puis le roi Agrippa. Et un jour, comme Jésus l'a promis lui-même, un jour tu vas rendre témoignage à Rome, la capitale, tu vas rendre témoignage à Rome, et certainement Paul va se trouver devant César lui-même pour rendre témoignage. Donc ça, c'est un témoignage retentissant parce qu'il a été fidèle ici, en chapitre 22, même rejeté, même mal compris, eh bien, pour l'instant, il ignore tout le retentissement que son témoignage aura, mais un grand retentissement, il va se trouver en prison à Rome, il va pouvoir dire aux Philippiens, voilà, tout le prétoire, tous les gardes, tous les soldats du prétoire, eh bien, ils connaissent l'histoire, ils connaissent le témoignage de Jésus-Christ, et César lui-même va le connaître aussi. Donc, rappelons-nous, on ne sait pas toujours qui écoute, qui voit, mais le message peut très bien résonner au-delà de ce qu'on imagine. J'ai toujours aimé ce psaume 71, verset 15, qui dit « Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Ma bouche publiera ta justice chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Le salut de Dieu est sans bornes. Et nous ignorons tout ce que Dieu est en train de faire quand il sauve et quand il met son salut en nous et quand il veut témoigner par nous. Il n'y a pas des bornes à l'œuvre de Dieu. Et quand on découvre son salut, on découvre, oui, ce salut était illimité, sans borne, et le témoignage qu'on peut avoir est illimité, parce que c'est Dieu qui agit. Donc c'est pour ça que Dieu peut lui dire, Jésus peut lui dire, dans cette dernière verset que nous avons lu, « Prends courage !» Et c'est ce qu'il nous dit aussi en tant que témoin, « Prends courage !» Et enfin, nous allons voir un témoin fidèle. On a vu un témoignage parlant, choquant, retentissant. Et enfin, un témoin fidèle. Paul a été fidèle dans son témoignage. Il a fidèlement parlé de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et ce qu'on remarque ici, qu'il n'a pas tant parlé de lui-même, mais il a parlé de Christ, de ce que Christ a fait dans sa vie. Et on encourage les chrétiens quand ils donnent leur témoignage. Ce n'est pas raconter toute leur vie, c'est raconter la vie de Jésus-Christ en eux. Et Paul a été fidèle dans ce domaine. Et pourtant, rejeté, mise en procès, on a vu, on n'a pas tout lu le chapitre 22, mais il va se retrouver encore devant le Sanhédrin, en chapitre 23 aussi. Et voilà, ça va encore mal se passer. Mais quand on lit tout ça, comme on a souvent l'habitude de dire, c'est en étudiant le livre des Actes, tout cela, ce procès, ce Sanhédrin, ce souverain sacrificateur qui fait frapper la bouche de Paul, la foule agitée qui crie « Hôte, hôte !» Tout ça, c'est du déjà-vu. Hein? C'est du déjà-vu. Avant Saul de Tarse, on sait qu'il y avait Jésus de Nazareth qui s'est trouvé dans les circonstances très similaires à Jérusalem. Et si Paul pouvait être un témoin fidèle, eh bien c'est parce que Jésus, avant lui, a été un témoin fidèle pour lui et pour nous. Vous savez, nous étudions le livre de l'Apocalypse, et un des noms, un des titres de Jésus qui revient à plusieurs reprises, c'est le témoin fidèle. Jésus-Christ est appelé le témoin fidèle dans le dernier livre de la Bible. Et effectivement, Jésus, il est le témoin fidèle de Dieu, c'est le témoin oculaire de Dieu, du ciel, de la réalité éternelle. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui peut témoigner, qui peut nous dire comment est Dieu, comment est le ciel, comment y arriver, eh bien, c'est ce témoin-là, c'est Jésus-Christ. Il était, il y est. C'est lui, il est le témoin fidèle. Il a rendu fidèlement témoignage de la vérité, de la lumière, du chemin, de la vie, parce qu'il est la vérité, il est la lumière, il est le chemin, il est la vie, il est Dieu. Il a rendu témoignage de Dieu, mais il pouvait le faire si bien en tant que témoin fidèle, parce qu'il est Dieu. Il pouvait dire, moi j'ai vu Dieu, parce qu'il était là depuis toute l'éternité avec Dieu son Père. Il est venu nous le dire. Donc finalement, Jésus, la personne de Jésus, Jésus c'est Dieu qui dit, j'aimerais vous donner un témoignage parlant de mon amour. Et ce témoignage parlant, c'est Dieu, il a parlé, et cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et c'est Jésus-Christ, le témoignage parlant de l'amour de Dieu pour nous. Et il a toujours, pendant son ministère, comme rapporte les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il a témoigné fidèlement de Dieu, de la vérité. Il a dit à plusieurs, il a fait comprendre à plusieurs reprises, c'est moi qui suis Dieu. Et c'est ça qui a tellement choqué les gens. Et on l'a mis en procès, on l'a arrêté, un peu comme Paul, on l'a traîné devant le Sanhédrin, devant les Romains. Mais au moment où Jésus aurait pu se défendre, eh bien, il s'est tu et il était allé à la croix. Il était allé à la croix pour nous, pour nos péchés. Mais en allant à la croix, c'était ça son témoignage. C'était ça son témoignage de son amour pour nous. Ici, on voit que le tribun Romain, il a protégé Paul. Il avait peur que Paul soit mis en pièces, c'est l'expression. Il avait peur que Paul soit mis en pièces, donc il a sorti de là. Jésus, il a été mis en pièces. Il a été déchiré à la croix pour témoigner à quel point Dieu nous aime. C'est Jésus le témoin fidèle encore pour nous ce matin, pour nous convaincre de la vérité. C'est le témoignage personnel de Dieu. C'est Jésus-Christ en croix. Et cette croix restera le témoignage le plus retentissant, le plus convaincant, le plus incontestable du message de la Bible, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu qu'il est prêt à offrir encore à chacun de nous. Vous savez, et je pense que Luc le sait, il existe un tribunal dans chaque cœur humain. Et chaque cœur humain est appelé à juger de la vérité. Et le but de la Bible, le but notamment de Luc, en nous écrivant déjà son évangile de Luc, et puis le livre des Actes, c'est d'offrir au cœur humain, dans ce tribunal qui siège dans notre cœur, des témoins. Et notamment un témoin par excellence, c'est Jésus-Christ. Si on ne se laisse pas convaincre par ce témoin fidèle-là, il n'y aura aucun témoignage qui va nous convaincre. Mais ce témoignant, Jésus-Christ, qui maintenant vient en nous, qui veut nous utiliser, qui veut nous utiliser pour rendre témoignage de lui, de son œuvre, il agit et c'est très parlant, c'est très convaincant. Quand il débarque dans une vie, cette vie est changée. La vie ne peut qu'être changée et c'est pour ça qu'il nous appelle à être des témoins. Comme on a dit, ce n'est pas le travail du commercial, c'est le travail du témoin. Simplement attester ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. C'est ce qu'il avait, il avait dit au début du livre. Vous allez recevoir une puissance, c'est mon esprit, ma présence dans votre vie, et vous serez mes témoins. Il avait pas dit, vous recevrez une puissance et vous devriez témoigner, et puis toujours témoigner davantage, et certainement vous ne l'avez pas fait assez, donc vous devez témoigner davantage. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, je reviendrai vers vous par mon esprit, et vous serez mes témoins. Avez-vous un témoignage? Avez-vous un témoignage à raconter? Avez-vous un témoignage à vivre? Est-ce que le soleil s'est levé dans votre cœur? Je ne demande pas à la minute près, mais je demande savoir si le soleil s'est levé. Ça se voit, vous le saurez, si le soleil s'est levé dans votre cœur. Et si oui, eh bien vous êtes la lumière du monde et vous rayonnez avec la lumière de Christ autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Prions.